affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un lieu qui, pour nous tous, suscite à la fois l'appréhension et l'espoir, un lieu qui nous rappelle inévitablement à notre fragilité, un lieu dans lequel on pénètre en rompant avec le cours habituel de nos vies, mais qui en même temps est peut-être l'un de ceux où la valeur de la vie est éprouvée avec le plus d'intensité, notamment parce que nombre d'entre nous y sont nés, que certains, hélas, y décèdent et que d'autres, enfin, y voient leur vie prolongée. Ce lieu, vous l'avez compris, c'est l'hôpital. Et si j'ai répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un lieu, c'est parce que nous allons nous y rendre, non pas en compagnie d'un médecin, mais d'un architecte. D'un architecte qui, au cours de sa carrière, en a justement conçu un grand nombre, plus d'une dizaine, je crois, en France, bien sûr, mais aussi en Italie et même en Chine. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio, la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Aymeric Zublena. Aymeric Zublena, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Zublena, vous êtes, je l'ai dit, architecte, vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, vous avez même été président de l'Académie des Beaux-Arts et président de l'Institut de France en 2015, et à travers votre carrière, vous avez conçu de nombreux hôpitaux, dont l'un des plus célèbres est en France, l'hôpital européen Georges Pompidou. Au cours de l'émission et de la petite heure que nous allons passer ensemble, nous allons bien sûr aborder de nombreuses questions, tenter de dévoiler la complexité incroyable de ce type de réalisation, et peut-être nous interroger sur ce que révèle l'évolution des conceptions des hôpitaux, sur nos valeurs, sur les inflexions de notre civilisation, de notre vision de la médecine et même de l'homme. Peut-être aussi d'ailleurs de la ville, puisque c'est l'un des pôles autour desquels devrait ou s'organise, nous le verrons, l'espace urbain. Toutefois, avant d'aborder ces thèmes, je voudrais commencer par une question un peu plus personnelle, en vous demandant ce qui vous a conduit à concevoir, à côté d'autres réalisations bien sûr, vous êtes aussi, je cite pour mémoire, l'un des co-auteurs du Stade de France à Saint-Denis, un si grand nombre d'hôpitaux. Il y en a quand même trop pour que ça puisse être simplement le hasard.
En effet, ce n'est pas le hasard, mais c'est à la suite d'un concours portant sur une toute petite opération qui était la réhabilitation du pôle chirurgical du professeur Bismuth à Paul Brousse, à Villejuif, je crois. C'était une restructuration de, je dirais, 1000 mètres carrés, c'est-à-dire une toute petite chose. Et l'assistance publique qui souhaitait faire venir des jeunes architectes, enfin des architectes n'ayant pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, m'avait invité ainsi que d'autres. J'avais gagné ce petit concours et à l'issue, le professeur Bismuth était content de ce petit projet. D'ailleurs, ensuite, plus tard, Claude Vasconi lui a fait alors le grand bâtiment dans lequel il travaille toujours. Donc, à la suite de ce petit concours, l'assistance publique a lancé le concours pour l'hôpital européen Georges Pompidou, et il y avait une douzaine d'architectes invités, parmi lesquels, je crois, de mémoire, 8 n'avaient pas construit d'hôpitaux, ou en avaient construit peu, ou très peu, comme moi. C'est comme ça. C'est-à-dire, la volonté de l'assistance publique, c'était de sortir des schémas tout faits des hôpitaux, et de faire venir des architectes qui pouvaient apporter, disons, une réflexion nouvelle. Voilà.
Alors, plus précisément, on sait que l'histoire des hôpitaux est le fruit de la conjonction d'un grand nombre de facteurs. Est-ce que vous pouvez nous dresser un premier aperçu historique de la façon dont ont été conçus les hôpitaux, peut-être même depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en grande séquence?
Oui, je ne suis pas un historien, mais disons d'abord, au départ, les hôpitaux s'adressent aux pauvres. Aux pauvres. Et aux contagieux. Ils sont donc à l'extérieur de la ville. C'est la ville qui, plus tard, l'entoure. Mais l'hôpital Saint-Louis, à l'origine, était à l'extérieur de Paris.
C'est-à-dire que les hôpitaux, c'est un petit peu, de l'époque, c'est un petit peu comme ce qu'on s'imaginerait, une léproserie, par exemple.
J'hésitais à employer le mot, mais c'est ça. Voilà. Et on y accueille les pauvres. Et en les accueillant, on les contrôle. Mais allons plus loin, arrivons, disons, au XIXe siècle, là où on commence vraiment à s'intéresser aux problèmes de la médecine, avec un aspect scientifique, et puis l'architecture destinée à accueillir donc, les médecins, les savants qui s'occupent de la médecine. C'est l'hôpital pavillonnaire, je vais vite. L'hôpital pavillonnaire, pour schématiser, c'est la circulation de l'air et source de santé. Donc c'est l'hôpital dans la verdure, c'est l'hôpital pavillonnaire, ce sont les grandes surfaces, les grandes hauteurs sous plafond pour que l'air puisse circuler et évacuer les miasmes. Et ce sont les grandes chambrées, c'est-à-dire il y a des grands espaces, des grandes pièces dans lesquelles on accueille 20 ou 30 parfois malades couchés. Voilà. Et puis arrive vers les années 30 une évolution, une autre réflexion, la conscience que la médecine est aussi une science qui utilise des techniques nouvelles, des matériaux nouveaux, des diagnostics, donc toute une série de machines qui se mettent à la disposition, qu'on met à la disposition des médecins, et donc pour accueillir ces machines, ces lieux de diagnostic et de soins et d'opérations évidemment, il faut des espaces qui leur soient dévolus. Et pour en finir, pour faire vite, l'hôpital pavillonnaire, c'est à peu près les deux tiers de la surface affectée à l'hébergement, c'est-à-dire aux chambres, un tiers affecté au lieu où s'exerce la médecine, tel que je viens de l'évoquer, et puis toute la partie logistique. Et puis l'hôpital contemporain, c'est deux tiers de lieux où sont mis en place toutes les techniques les plus contemporaines, et les matériels qui évoluent en permanence, et puis de la logistique, et un tiers, c'est l'hébergement. Avec cette idée, d'ailleurs, que l'on doit héberger le moins longtemps possible. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, ça évolue vers l'hôpital de jour, c'est-à-dire vous entrez le matin, il y a encore 20 ans, vous aurez, pour tel ou tel soin, vous aurez gardé un jour, deux jours, voire trois jours, aujourd'hui, vous entrez dans l'hôpital le matin, on vous dit, monsieur, tout va bien, bravo, ça s'est bien passé, au revoir, revenez me voir dans une semaine. Voilà.
Donc là, c'est dû, j'imagine, à l'évolution de la médecine, vous avez fait le lien. En termes d'architecture, d'aspect extérieur, pour qu'on puisse un petit peu se repérer, faire appel à nos souvenirs, qu'est-ce que cela donne, ces deux conceptions?
Si vous voulez ces deux conceptions, vous avez à Paris la Salpêtrière, qui est un espace magnifique. Je ne sais pas si vous êtes allé dans la chapelle de la Salpêtrière, c'est un lieu magique. Mais enfin, il ne s'y déroule plus beaucoup d'action médicale. On peut réunir des gens pour parler de la médecine, mais enfin, c'est un lieu qui n'a plus la même fonction qu'avant. Et puis, vous avez l'Hôtel Dieu à Paris, dont l'évolution, on réfléchit actuellement sur sa destination. Ce sont donc des monuments, il faut dire les choses, ce sont des monuments magnifiques qui s'inscrivent dans la ville, enfin, autour de laquelle la ville s'est agrégée, et qui sont composés d'une façon monumentale, à un axe de composition autour duquel s'articulent de grands espaces, des grands jardins, et puis de nouveau autour de ces grands jardins, tout l'ensemble des pavillonnaires, les grandes galeries où circulent malades et les mandarins et tout le monde médical. C'est la monumentalité, c'est la médecine presque solennelle, mais en même temps efficace. Mais d'une autre efficacité que celle de nos bâtiments contemporains.
Est-ce que vous me permettez de vous lire un court extrait?
Oui.
C'est un extrait d'un roman, qui s'appelle La nuit de Valenham, qui est dû à Alexis Génie, un roman qui est paru il y a quelques mois, un an peut-être, et dans lequel il est question d'un hôpital. Voici comment Alexis Génie décrit cet hôpital, probablement dit pavillonnaire, comme vous venez de le dire. Il est temps de décrire l'hôpital général de Valenham. Au soleil, c'est superbe. Entre les pavillons, il y a de la place pour prendre du recul, de l'herbe et des allées pour faire quelques pas. Regarder en l'air, admirer ces pavillons rouges se détacher du ciel. Dans les années héroïques, où l'on croyait en l'homme, au progrès, à l'avenir, On utilisait le ciel comme élément d'architecture. On prévoyait que les formes se détacheraient sur ce fond d'azur et cela seulement leur donnait leur vraie dimension. L'avion qui vole par la vertu de sa forme était le modèle de ces bâtiments dont on voulait qu'ils ne pèsent pas, dont on voulait qu'ils s'évadent de la pesanteur d'un coup de rein, comme autant de figurations de la vigueur humaine, de la volonté de tenir debout quand même. Dans le parc de l'hôpital général, l'air circule, les formes sont élémentaires, rien n'est écrasant, par la seule conception de son architecture, il soulage les malades. L'hôpital fut construit comme une cité-jardin, au moment où la médecine se contentait de prendre soin, en espérant que ce dont les malades souffraient, ils s'en soigneraient d'eux-mêmes. Du repos, du repos, du repos, disait-on en belle période ternaire, et cela suffisait à couper court à l'inquiétude, tant c'était catégorique et simple. Des prescriptions aussi bien dites étaient compréhensibles par tous, un beau bâtiment propre, où les malades seraient au calme, voilà le meilleur médicament, et c'est d'ailleurs le seul. On nous sculptait, bien sûr, on donnait des pommades, quelques potions, mais surtout, du repos.
C'est assez bien vu. Je ne suis pas sûr que lorsqu'on a conçu l'hôpital pavillonnaire, on avait en tête l'avion. Enfin, peut-être. C'est assez bien vu. Je dirais, pour prolonger cette réflexion, l'hôpital psychiatrique à la campagne, construction qui se faisait encore dans les années 50-60, était la représentation la plus... comment dire, presque caricatural de cette notion, le malade mental, eh bien ce qu'il lui faut, c'est des petits oiseaux, c'est la verdure, ce sont les vaches dans les prés, c'est le silence. Eh bien, on a remis ça complètement en cause lorsque la psychiatrie a été repensée, on a au contraire introduit l'hôpital psychiatrique urbain. C'est-à-dire que c'est une autre vision du monde hospitalier. Mais ça, les médecins parleraient beaucoup mieux que moi. Moi, je parle en tant qu'architecte. Alors, en ce qui concerne maintenant l'architecture de l'hôpital pavillonnaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Ben oui, ça a indiscutablement un charme fou. C'est, pour employer un terme galvaudé, c'est tout à fait à l'échelle humaine. Les bâtiments sont souvent de rez-de-chaussée, un ou deux étages. Ils sont, comme le dit très bien l'auteur, non pas dispersés, parce que l'hôpital pavillonnaire était souvent organisé, composé, comme j'ai dit.
Plutôt en épine dorsale.
En épine dorsale. Mais c'est vrai, mais que dire, ça ne... Enfin, c'est assez justement vrai, c'est-à-dire qu'au fond, on se préoccupe peu de soigner... Grâce à toutes les techniques modernes, à tous les matériels mis à disposition des médecins, on ne parle très peu, par exemple, de la partie recherche. Où est-ce qu'elle est, la partie recherche, dans ce plutôt ? Or, il faut savoir qu'il y a la partie des la surface des laboratoires dans un hôpital contemporain est très importante. Or, un laboratoire, on sait très bien qu'il y a une dimension extraordinairement rationnelle, scientifique. Bon, c'est charmant, ce qui est dit.
Est-ce que ça n'a pas finalement simplement le charme de la vie ancienne qui était simplement plus simple, mais parfois plus douloureuse aussi, parce que à choisir, si j'avais le choix entre cet hôpital et un autre hôpital moderne, je ne suis pas sûr que je me rendrais dans le premier. Je me rendrais peut-être dans le premier pour me promener, pour me reposer, mais peut-être pas pour me faire soigner.
Je crois que vous auriez raison.
Est-ce que vous voulez bien, je vais vous lire un second extrait qui concerne là la partie moderne du même hôpital, puisque cet hôpital, dans le roman, a été doté d'une extension. L'hôpital général est en cours de désaffection. Il était construit en 1972, et comme pour l'essentiel de ces années-là, il est un pavé de verre mis debout, et c'est tout. On a empilé pour sa façade des segments de béton aux angles arrondis, qui le fait ressembler au papier peint des cuisines et des salles de bain. Puis on a tout recouvert d'une peau de verre, on a vitrifié le nord industrieux et la Belgique voisine. Ces immeubles simplistes sont les derniers soubresauts de l'urbanisme à Wallenham. Ils sont quelques-uns dépassés de l'étendue de toit, tristes échassiers de béton gris et de verre teinté, mal faits dans le détail mais imposants par la taille. On peut se demander pourquoi on construisait si laid en ces années-là, des immeubles impersonnels comme des caractères Helvetica, obéissant aveuglément à leur fonction de boîte, avec leur hauteur comme seule qualité, alors que l'on a construit si beau auparavant. Pourquoi a-t-on renoncé à la forme, renoncé aux beaux gestes ? Pourquoi a-t-on renoncé au génie de la brique ? Posés n'importe comment, sans souci de la ruine, ni de l'espace commun, ils sont déplacés comme des paix, ils sont le dernier sursaut de nos richesses perdues. Lorsque l'on s'approche, il est difficile de trouver l'entrée. Le dedans et le dehors ne se mêlent pas. La porte est un panneau de verre. On vient par une allée de dalles dont certains joints ont cédé. Elle bascule avec un petit choc de chaise bancale. On aperçoit enfin la maigre marquise. La feuille de béton verdie, ou « Hôpital général », est écrite avec des lettres qui manquent. et la porte, c'est le panneau qui glisse quand on est tout près. Charles entra dans le hall très haut, très vaste, très vide, car on aimait aménager de grands espaces qui consommaient une place folle à simplement accueillir, recueillir et répartir les flux, tant on s'enivrait à penser les gens comme des flux. Il fallait circuler, on craignait par-dessus tout la thrombose, que quelqu'un s'arrête et que tout se fige. Un peu sévère, non ?
C'est sévère, il y a des notations justes, mais avant de commenter ce texte, je veux quand même refaire un tout petit point d'histoire. C'est à partir des années 60, je ne connais pas la situation de des constructions hospitalières en Belgique, mais en France, en gros...
C'est dans le nord de la France. Hein,
Ah oui. C'est à partir des années 60 qu'on a décidé d'équiper la France d'hôpitaux. Parce qu'elle en avait besoin, tout simplement. Et il y a eu toute une politique... qui a été développé à un moment donné par Simone Veil, qui était l'hôpital type, c'est-à-dire à partir de l'hôpital modèle, à partir d'éléments qui étaient les salles d'opération, les chambres, les espaces de diagnostic, qui étaient des sortes de Lego. On assemblait ces éléments-là et on les disposait sur le territoire en fonction des enquêtes qui avaient été faites, là il faut disposer tel hôpital, là il faut disposer tel hôpital. C'est-à-dire, on répondait un petit peu comme pour le logement, à des notions d'urgence. Il fallait équiper le territoire de lieux où s'exerçait la santé. Bon, donc, l'industrie s'est saisie de ça, les médecins étaient plutôt favorables, les architectes répondaient comme ils répondent lorsqu'on leur passe une commande, et il est évident qu'on a répondu à un besoin. Bien. Mais comme toujours, dans l'urgence, on a peut-être un petit peu évacué la dimension humaine, pour parler simple, voire même la dimension esthétique.
Oui, bon. Ou symbolique même.
Ou même symbolique. Mais reste qu'on a répondu à une autre nécessité. Alors, en 1972, c'est déjà un peu après. C'est-à-dire, on prend conscience que tout de même, il faut essayer de réintroduire une sorte d'esthétique. Bon. Alors, ce qui est évoqué, c'est peut-être l'esthétique des années 70, le vert, en effet, la modernité au travers de matériaux brillants. Il évoque une dimension qui est celle de l'accueil. Il la critique en disant on fait de vastes espaces pour accueillir les gens, mais ce n'est pas forcément ces espaces-là au détriment des autres espaces. Donc, comme toujours, c'est normal, c'est intéressant, c'est une vision qui est... peut-être un petit peu sommaire. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est la notion de flux, je trouve.
Oui, c'est vrai. Mais les flux, vous avez évoqué le stade, mais les flux dans ces lieux où convergent beaucoup de personnes, il ne faut pas le négliger, parce que c'est un problème d'abord d'efficacité, de fonctionnalité, de sécurité, et puis au bout du compte, du confort. Parce que, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'hôpital Georges Pompidou, moi pour avoir pratiqué en tant que patient quelquefois les zones d'attente dans certains hôpitaux, justement, qui ont été construits dans les années 60, il n'y a rien de plus sinistre que des espaces d'attente où pendant une heure, on attend dans un lieu... un peu triste, rarement éclairé en lumière naturelle, bah, l'attente, c'est aussi quelquefois un moment d'angoisse. Et bah, essayons d'apaiser cette angoisse en offrant une architecture de ces lieux d'attente aussi agréable et confortable que possible.
Je pense que vous évoquez des souvenirs à tous nos auditeurs.
Probablement, j'imagine.
Alors, entre ces deux conceptions, celle présentée de façon un petit peu idyllique, de l'hôpital un peu transposé de ces lieux où vous envoyez en cure, parce que finalement ces hôpitaux c'est pas tellement des lieux en soins, donc vous envoyez en cure comme vous enverrez à la montagne ou à la campagne, et puis l'hôpital moderne extrêmement fonctionnel, est-ce qu'il ne serait pas néanmoins, c'est facile de le dire, possible de concilier ces deux aspects, est-ce qu'après cette période simplement pavillonnaire et ensuite fonctionnaliste quand même à l'extrême des années 60, vous parliez d'un hôpital modèle qu'on aurait reproduit au fil du territoire. Est-ce que pour un architecte ou un urbaniste, c'est pas une hérésie, cette idée d'hôpital modèle qu'on irait poser ici ou là, au-delà des nécessités que vous avez exposées ? Ce n'est pas très rigolo de répondre à un appel où on vous donne un hôpital modèle à reproduire, quand même.
Vous avez arrivé à un certain âge où on n'a plus de position radicale. Je dirais, lorsque Simone Veil et d'autres personnes ont eu à répondre à cette question d'équiper le territoire. Les réponses architecturales sont insatisfaisantes, c'est indiscutable. Mais c'était une réponse à un moment donné. Et il faut, faut savoir que très vite, enfin, à partir des années, disons, 80, pour faire simple, le monde hospitalier, c'est-à-dire les médecins, les directeurs des hôpitaux, le ministère, tous ceux qui avaient en charge de réfléchir sur le problème de l'hospitalisation, se sont dit, réintroduisons une dimension architecturale. Essayons de bâtir des programmes, ce sera un autre problème, de bâtir des programmes où on énonce les aspects fonctionnels, mais invitons des architectes qui n'ont pas forcément derrière eux une très grande expérience dans les hôpitaux, demandons-leur d'apporter une réflexion qui est de leur domaine, c'est-à-dire l'espace. L'espace, puis l'esthétique, si vous voulez, l'espace. Parce qu'on a pris conscience qu'en effet, c'était des lieux où on soignait, mais où vivaient des hommes, le personnel. On parle des malades, c'est évident, ils sont au centre de l'hôpital. Enfin, on parle du personnel aussi. Et il y a, à l'hôpital Georges Pompidou, je ne sais plus, plus de mille personnes.
Oui, c'est une petite ville. Hein.
C'est une petite ville. Et dans les autres hôpitaux qu'on construit, c'est la même importance. Il faut que ce personnel ait des lieux où puisse exercer au mieux de l'efficacité, leur intervention, leur travail. Donc c'est sûr, donc ne soyons pas trop sévères. Ceux qui ont pensé, qui pensent et qui continuent à penser l'hôpital, maintenant il y aura une évolution, j'y reviendrai, ont eu ce souci d'introduire une dimension architecturale, voilà. Le souci du confort, de la qualité, de la résistance des bâtiments à leur énorme sollicitation. Mais si j'avais un regret à exprimer, c'est que, et je pense que c'est que les budgets qui sont alloués à la construction de ces bâtiments sont souvent insuffisants. Alors on m'objectera qu'il y a d'autres soucis, mais ils sont souvent insuffisants. Et la tenue dans le temps des bâtiments que l'on construit est une chose très importante. Or, cette tenue dans le temps, ça veut dire que le choix de très bons matériaux qui résistent bien au choc, tout simplement, au vieillissement, à la lumière, c'est, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça veut dire que ça coûte. Lorsque j'entends dire...
Mais c'est un investissement.
Mais c'est un investissement, tout à fait. C'est-à-dire que ça coûtera moins cher dans la maintenance. Enfin, c'est le vieux débat que les financiers connaissent bien, c'est-à-dire que dans le coût d'une construction, il faudrait intégrer à la fois le coût de construction et le coût d'entretien. Ça vient en France, ça vient.
Vous avez évoqué l'hôpital Georges Pompidou, que vous connaissez bien et pour cause. Lorsque vous avez évoqué cette possible conciliation entre ces deux univers, le premier, échelle humaine, conçu aussi comme un lieu de vie qui ne déstabilise pas complètement des gens qui sont déjà déstabilisés par la maladie, et un hôpital plus fonctionnel. Je pensais justement à la rue hospitalière du centre Georges Pompidou. Vous avez conçu donc cette rue hospitalière dans laquelle je crois que c'est une sorte de verrerie où il y a des arbres, des boutiques et un accès aux différents services. Est-ce que ce n'est pas la matérialisation de cette conciliation que j'évoquais de façon un petit peu abstraite?
J'espère,
ça fait penser à cette épine dorsale. Hein.
J'espère, mais c'est pas à moi de le dire.
Oh bah
je reviendrai. Alors, vous faites allusion à la rue hospitalière. Je rebondis là-dessus. Lorsque l'assistance publique avait lancé le concours, elle avait énoncé le programme fonctionnel, etc., etc. Et elle avait dit, il faut un hôpital urbain. Mais ça veut dire quoi, un hôpital urbain? C'est-à-dire qu'il est dans la ville, ça, on comprend. C'est-à-dire, c'est justement... C'est déjà un choix extraordinaire qu'a fait la science publique, là. C'est d'affecter à un bâtiment hospitalier des terrains qui valent une fortune. Parce qu'on aurait pu y construire des bureaux pour des très grandes sociétés, des sièges sociaux. On aurait pu y construire des logements de luxe. Bon, il faut quand même reconnaître, là, la ville de Paris a dit, ben voilà, j'affecte ce terrain pour y faire un hôpital. Un terrain qui vaut cher. Bon. Mais elle avait dit un hôpital qui s'ouvre sur la ville. Alors, je me suis dit, ben, je vais reprendre une idée qu'avait amorcée Pierre Riboulet, pour qui j'ai le plus grand respect, qui n'est plus parmi nous, à l'hôpital Robert Debré. l'idée d'une rue, c'est-à-dire un lieu qui dessert l'ensemble des fonctions hospitalières et qui évoque un peu cette idée d'urbanité. Je l'ai développé, j'ai amené, je pense, au maximum de ce qu'on pouvait espérer de ce concept, c'est-à-dire que cette rue hospitalière couverte d'une verrière traverse l'hôpital de part en part, d'est en ouest, et elle est ouverte au public, c'est-à-dire des gens qui se rendent à des bureaux qui se trouvent dans le parc Citroën et qui n'ont rien à faire avec l'hôpital peuvent l'emprunter, c'est une rue publique qui est fermée à partir, je crois, de 7h du soir et qui s'ouvre le matin, etc. Eh bien, je dirais que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelquefois d'y aller en tant que consultant sur notre hôpital ou lorsque j'ai quelques communications à faire. J'y vois des gens, j'y vois des personnes, je ne sais pas si elles sont hospitalisées, j'y vois des médecins et des infirmières qui prennent un café. Et ce que je craignais le plus, c'est qu'elle soit bruyante. Alors, pas du tout, elle est assez silencieuse, elle est baignée de lumière. Mon souci, c'était de le protéger d'un trop grand ensoleillement. Et en effet, c'est un des espaces qui marque le plus, je crois, l'hôpital Georges Pompidou, et qui est apprécié. Alors évidemment, peut-être que votre auteur la critiquerait en disant « Mais pourquoi on fait ces grands espaces ?»
Eh bien, je ne pense pas, parce que dans son extrait, quand il critique le cube de verre, il dit « Le dedans et le dehors ne se mêlent pas ». Or, à travers cette rue hospitalière, c'est bien un lien entre la vie habituelle, la vie normale, et la vie médicalisée.
Absolument.
Et cet espace de transition doit certainement permettre de passer de l'un à l'autre dans un état psychologique plus rasséréné et montrer qu'on n'est pas soustrait à la vie, qu'on est déjà en dehors, mis au banc. C'est certainement l'objectif.
Ça a été mon grand souci d'ailleurs. Le grand atrium qui se trouve à peu près au premier tiers de cette rue s'ouvre sur un jardin que j'ai réussi à conserver parce que c'est très dense, putain. Et qui s'ouvre sur le jardin Seven Citroën. Mais il y a aussi des voitures qui passent. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans cet espace d'accueil, on n'est pas encore totalement pris en charge par la partie dure de la médecine. On est là, en un espace intermédiaire, en effet, le dedans, le dehors. Voilà.
Est-ce que l'autre aspect intéressant qui est une rupture par rapport aux hôpitaux des années 60 que vous évoquiez, c'est pas son caractère horizontal. L'hôpital Georges Pompidou n'est pas vertical, il est horizontal, il retrouve quand même cette assise qui était celle du pavillonnaire, et voire il est plus urbanistique, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut pas le poser quelque part, il s'intègre dans l'environnement et il s'étire. Donc c'est plus doux.
Alors, ce sont des considérations strictement fonctionnelles qui ont conduit à cette notion d'hôpital horizontal que j'ai transposée ensuite en Italie, où j'ai appelé la piastra, c'est-à-dire la plaque. Alors ça, c'est une conséquence. Sur l'hôpital Georges Pompidou, vous l'avez amorcé, vous avez perçu ça, ce n'est pas aussi évident et radical que dans d'autres hôpitaux que j'ai construits, notamment à Toulouse, Purpan, là, le dernier. Alors là, c'est autre chose. L'hôpital c'est un lieu d'évolution. C'est-à-dire, à peine il est terminé, ou même, alors même qu'il est encore en chantier, déjà, on doit introduire des demandes qui ont évolué, soit parce que on a trouvé de nouveaux moyens de diagnostic, soit des thérapeutiques nouvelles, soit parce que des maladies que l'on considérait disparues réémergent, ou d'autres et apparaissent. C'est un lieu en constante évolution. Et il faut que tel espace qui est dévolu à un moment donné au diagnostic par l'imagerie médicale puisse être plus tard affecté à une partie de laboratoire ou une salle d'opération ou des salles d'opération qui n'ont plus de raison d'être soient transformées en laboratoire, etc. Bon, que voire même que des hébergements soient transformés, c'est-à-dire là des chambres, on les utilise pour d'autres fonctions plus techniques. Or, pour pouvoir répondre à ça, il faut l'horizontalité. Pourquoi ? Parce que il est plus facile d'étendre un service, par exemple l'imagerie, en empiétant sur le voisin, qui est au même niveau, que de monter à l'étage au-dessus ou trois étages au-dessus. Et c'est une des plus grandes évolutions du monde hospitalier contemporain, c'est cette notion d'horizontalité. Il faut comprendre que ça suppose des grands terrains. Ce qui n'était pas le cas de Georges Pompidou. Georges Pompidou a une densité extraordinairement forte. De mémoire, il fait à peu près 120 000 mètres carrés sur 4 hectares. C'est-à-dire c'est un coefficient d'occupation du sol de 3, ce qui équivaut aux îlots parisiens. Alors, ça a un autre effet, l'hôpital horizontal. Ce sont les parcours, les circuits. Que de fois, on m'a dit « Ah, mais vos couloirs sont trop longs. » Ben oui. Mais c'est que si... les couloirs remplacent les ascenseurs. Ou souvent, j'ai fait cette image-là, on dit « Ah, ben c'est très bien, vous avez des chambres à un lit. Ah, mais les couloirs sont trop longs. » J'ai dit « Mais écoutez, c'est très simple. Si on mettait toutes les chambres à deux lits, la surface nécessaire serait la même, mais le couloir pour aller d'une chambre à l'autre serait diminué par deux. Et puis, si c'était des chambres à trois lits, ça serait la même chose. Donc, c'est très difficile à faire comprendre ça, la longueur des couloirs, que de fois. Alors, je dis, et on me dit, mais les hôpitaux pavillonnaires, les couloirs étaient courts. J'ai dit oui, au sein du pavillon. Mais lorsqu'il fallait d'aller d'un pavillon à un autre, on était obligé d'y aller sous la pluie. J'ai vu ça, un brancard déplacé sous une pluie très fine, pas très dense, avec un des brancardiers qui tenait un parapluie. Parce que, là, se dit, c'est charmant.
Vous avez parlé de ce lieu qui paraît presque biologique, puisqu'en évolution permanente, outre l'horizontalité... Comment cela est-il pris en compte au plan d'un... Enfin, j'imagine, c'est un appel d'offres, on présente un premier projet, entre le moment où il est accepté, est-ce que les délais de réponse administrative sont plus courts sur ce type de projet que sur d'autres ça a l'air d'être un casse-tête quand même invraisemblable.
Si vous parlez de délais, écoutez, je rappellerai que l'hôpital Georges Pompidou, c'est tout. Celui sur lequel les délais ont été plus longs. Entre le moment où j'ai gagné le concours et le moment où il s'est ouvert, il s'est passé plus de 15 ans. J'ai dit souvent, à l'époque où il y avait des deux septennats, plus de deux septennats. Alors, c'est très réglementé. Tout ce qui est construit avec de l'argent public, que ce soit au niveau de la commune, du département, de la région ou de l'État, avec financement public, c'est concours, obligatoirement. Donc, avant le concours, il faut d'abord que le programme lui-même a déjà été élaboré par des spécialistes. Il a pu, parlons des hôpitaux, arriver à mettre d'accord les médecins, le personnel, etc., sur un programme, c'est très long. Mais je dirais, ceci m'échappe un peu.
Mais ça, c'est en amont.
C'est en amont. Enfin, il faut savoir que ça peut prendre 1, 2, 3 ans. Après, l'architecte, les architectes et les bureaux d'études sont consultés, puisque c'est une obligation. Là, en général, on leur donne un temps trop court de réflexion, mais enfin, qui va entre 3 et 6 mois, non, 3 et 5 mois, mettons. Après, il y a le jury. Et puis, lorsque le jury a retenu le projet... qui est sur une phase, ce qu'on appelle esquisse, bon, c'est une esquisse déjà assez aboutie, se développe le projet. Alors là, c'est une phase tout à fait intéressante. C'est là que l'équipe architecte-ingénieur rencontre les médecins qui disent « Mais nous, on n'avait pas du tout dit ça, on a toujours dit qu'on ne voulait pas ça. » C'était dans le programme. « Oui, mais le programme, d'accord, mais on n'était pas d'accord sur le programme. » Alors on dit « Mais si on vous entend, vous avez un directeur, mettez-vous d'accord entre vous. Je suis ouvert pour... adapter l'esquisse qui a été sélectionnée pour répondre à vos demandes. Mais souvent, prenez conscience que vos demandes sont contradictoires. Le monde médical est un monde passionnant et de passion. Ils s'engueulent entre eux. C'est des problèmes de territoire. Toujours légitimes, personne ne justifie ça. Et nous, on est là, on compte les coups, on essaie de répondre. Nous, les architectes.
Mais si on ajoute à ça des édiles qui sont réélus tous les 5 ans, ça ne doit pas être facile quand même.
C'est terrible. Je peux vous dire, l'hôpital de Reims... qui était un très bel hôpital que j'avais gagné. Nous avons poussé le projet jusqu'à sa phase ultime, c'est-à-dire l'appel d'offres. Les entreprises avaient répondu. Il fallait choisir ensuite l'entreprise. Il y avait trois réponses. Eh bien, il y a eu un changement. Le maire qui est venu, qui a été battu d'ailleurs depuis, et qui était contre au moment avant, quand il est devenu maire, a dit « on est d'accord ». Et puis il y a eu un stop au niveau du ministère en disant « on arrête ce projet trop cher ». Et le projet, il est encore dans les cartons. Ça représentait quelques centaines de milliers d'euros, pour pas dire plus, d'études, de temps, des heures de temps. Ça a duré 3 ans, et abandonné. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une des choses les plus dures pour un architecte. C'est un projet avorté. On vous dit « vous avez touché vos honoraires ». Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça.
On s'investit quand même un petit peu plus.
On s'investit totalement. On s'investit totalement. Et c'est... Projet avorté, c'est triste. Enfin bon, c'est comme ça. Vous savez, quand j'étais jeune, je me souviens de mes architectes chez qui travaillaient, m'avaient dit, il y a un projet sur 10 qui se réalise, et en moyenne, il faut 7 ans. Il avait raison. Il avait raison.
Si on peut faire une projection, là, les lieux de soins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec l'hôpital de jour, les lieux de soins évoluent, on parle des avancées permises par le numérique, les opérations à distance, tout ce que le digital et le numérique permet, et qui a transformé, j'imagine, aussi énormément votre métier, en ouvrant... Mais prenons ça d'abord, d'ailleurs. De quelle façon le numérique est-il ouvert des possibilités nouvelles, au-delà du simple calcul, j'imagine?
Bon, d'abord, au point de vue représentation, c'est-à-dire qu'avant, pour faire une esquisse, une perspective d'un projet qu'on élaborait pour pouvoir enfin faire une image compréhensible par ceux qui ne sont pas des spécialistes, il fallait une semaine, il fallait 15 jours, il fallait un mois, ça dépend de la perspective. Là, avec nos machines, on peut donner une image, au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude, on peut représenter par des images qui sont de plus en plus précises ce que sera le futur bâtiment. Et soi-même, on s'en sert pour modifier. Donc c'est un outil extraordinaire. Et puis ensuite, bon, ça permet de calculer plus rapidement. Enfin, les ingénieurs répondraient mieux avant pour calculer la section d'une poutre ou d'une voûte un peu complexe. Vous savez, avec la petite règle à calcul, il fallait des heures, voire des semaines. Maintenant, les ingénieurs ont des logiciels qui leur permettent de vous répondre pratiquement sur le champ. Voilà, il faut ferrailler comme ça ou il faut dimensionner comme ça.
Mais est-ce que ça a juste facilité ou rendu plus rapide? Ou est-ce que ça a permis de nouvelles formes?
Ah, alors ça, c'est là, vous m'embarquez sur un sujet sur lequel j'ai fait un texte. Ça, c'est autre chose. Oublions 30 secondes les hôpitaux. Ça a permis ce que j'ai dit, une architecture baroque. C'est-à-dire que...
Mais d'habitude, on vous qualifie de classique.
Pardon ?
D'habitude, on vous qualifie plutôt de classique, si je ne me trompe pas.
Oui, mais je ne parle pas de l'architecture que j'ai fait moi. Le baroque. C'est-à-dire une recherche de formes qui n'obéissent plus à une rationalité, ou qui obéissent moins à une rationalité constructive ou fonctionnelle, qui sont très souvent de pures images formelles, souvent très belles, et qui ont fini par influencer la production architecturale d'une façon considérable. Alors là, c'est un piège, parce que ces images séduisent les clients qui ont les moyens. Et ça devient une sorte de surenchère de séduction avec le pire et le meilleur. Dans ce sens-là, l'outil informatique a été tout à fait étonnant. Il a eu une influence considérable. Et ça a eu un aspect second, c'est que moi j'ai été professeur d'architecture pendant de nombreuses années, parallèlement à mon exercice professionnel, et j'ai vu peu à peu, pas tellement dans mon école d'ailleurs, enfin malgré tout ça évoluait, que la notion de comment ça peut se construire devenait presque un peu seconde. J'ai entendu des gens de qualité d'ailleurs dire oh ben ça, à chacun son métier. Et j'ai vu à, je crois que c'était à, je me souviens plus en Italie, si c'était à Milan ou ailleurs, des architectes de très grande notoriété et des ingénieurs. Et des ingénieurs disant messieurs les architectes, on vous admire. Ils s'adressaient à des gens qui avaient des architectes qui avaient construit. On vous admire, votre imagination nous stupéfie, mais après vous nous confiez des esquisses et puis vous nous dites allez, essayez de me faire tenir ça debout. C'est-à-dire, c'était une petite pointe qui était lancée.
J'espère qu'ils ne fabriquent pas de pont.
Non, je tiens à dire, alors, les architectes. Il y avait des gens remarquables, je ne vais pas les citer, mais des gens qui n'avaient pas 20 ans, qui avaient 50, 60 ans, qui avaient construit, qui savaient ce que c'était construire. Et au fond, cette critique s'adressait presque à la génération suivante. Celle qui disait, bon, écoutez, à chacun son métier, moi je fais une forme et puis faites-moi tenir ça debout. Oui, dans ce sens, c'est une évolution. Mais là, on est loin de l'hôpital.
Oui, mais alors justement, si on conçoit des formes en oubliant presque la destination, la fonction du lieu... Est-ce qu'on n'arrive pas à quelque chose, finalement, qui n'est plus de l'ordre de l'architecture, mais je ne sais pas, de...
Du graphisme.
Oui, du graphisme, oui.
Voilà. Mais vous savez, c'est les balanciers de l'histoire, hein, c'est vrai, au monde de l'architecture, comme ça, partout ailleurs, j'imagine, en politique en particulier. C'est les grands coups de balancier, c'est-à-dire à un moment donné... Je vais être un peu long. En gros, on a récusé une certaine forme d'enseignement dit académique, où seule la représentation valait, la forme en soi, la forme gratuite, avec ensuite un effondrement dans une architecture du 19e siècle. Monumental, spectaculaire. Bref, du coup, on a fait émerger le fonctionnalisme pur et dur, et où des gens ont dit ah ben on vous construit, on vous a compris, plus de décor, plus de formes exubérantes, la rationalité pure, ça a conduit au chemin de grue, hein, c'est-à-dire les constructions. On disait ben on vous a compris, on n'avait plus de décor, il faut que ça se construise vite. Il faut que ça soit pas ostentatoire, on vous a compris, ce sont les barres d'HLM. Sauf que lorsque les architectes du mouvement moderne mettaient en cause une certaine académisme, ils ne voulaient pas, leur discours a été complètement tronqué ou volontairement déformé.
Oui, les relations de Breuer ou de, voilà, de Corbusier ne sont pas les mêmes que celles qu'on suivit.
Voilà, c'est-à-dire que les autres se sont saisis de ce que disaient les modernes, et disant, bah, on vous a compris, mais ils ont inquiété. Alors maintenant, effectivement, face à une rationalité, une fonctionnalité desséchée, critiquée à juste titre là par votre auteur, on se met à une sorte d'exubérance palacieuse parfois, mais en même temps, là je suis un peu sévère, en même temps on réintroduit une réflexion plus sensible. Voilà. On dit la fonctionnalité, c'est une dimension, prenons-la en compte, mais ne réduisons pas l'architecture à ça. D'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qui est du domaine de la construction du domaine de l'architecture. Ça va de soi qu'il faut que ça tienne, ça va de soi qu'il faut que ça fonctionne, mais il faut de soi que ça soit beau, qu'on s'y sent bien.
Dans la documentation que vous m'avez donnée, il y a, je ne me souviens plus qui, un des auteurs qui compare l'architecture à la musique. Il dit voilà, un architecte compose. Il compose une œuvre comme un compositeur de musique, mais il compose aussi avec des nécessités et avec des contraintes. Est-ce que cette définition vous convient?
Ben, je ne sais pas si vous avez entendu hier matin, Boulez, qui vient de mourir, disait l'intérêt qu'il portait à l'architecture, et il disait, reprenant une phrase un peu éculée de Goethe, l'architecture est une musique figée. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais il parlait de rythme. Il parlait de rythme, il parlait de contraste, d'émergence brutale, etc.
La musique mise dans l'espace.
Voilà, la musique mise dans l'espace. Bon. Oui, que dire, c'est vrai, enfin, ça serait du... Ce sont souvent des comparaisons flatteuses, intéressantes, qui ouvrent l'esprit à des rapports auxquels on ne pense pas naturellement.
Bon, enfin... Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi composer avec.
Oui, il faut composer avec, c'est vrai. Ah, ça, effectivement, ça, ce qui fait que un de mes confrères me disait qu'il avait rencontré plus jeune que moi, rencontrer un musicien dans un lieu où on avait réuni des artistes différents, des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des musiciens et des architectes. Et le musicien lui avait dit à lui, architecte, « Oui, mais toi, tu n'es pas un artiste, parce que tu dois tenir compte d'abord d'une commande qui t'est passée, et puis de contraintes qui sont liées aux matériaux que tu utilises, ou au problème de la géométrie et de la résistance des matériaux. » Ce qui avait d'ailleurs un peu peiné mon confrère, qui est un très grand architecte, un très bon architecte. Mais c'est vrai, c'est un art et une technique par ailleurs. Ouais.
Je voulais revenir sur cette...
Un peu comme le cinéma.
Pour revenir sur cette comparaison entre musique, il ne faut peut-être pas tirer sur le pianiste, mais il ne faut pas non plus toujours tirer sur l'architecte. En tout cas, ce que je voudrais, c'est que vous rappeliez à nos éditeurs combien, lorsqu'ils voient tel ou tel bâtiment qui ne serait pas à leur goût, puis après tout, on peut aussi avoir différents goûts, mais au-delà de ça, comprendre que les gens qui créent, qui conçoivent des immeubles doivent effectivement composer avec tel édile, éventuellement mégalomane ou pas, avec tel changement d'édile, avec des contraintes foncières, budgétaires, fonctionnelles et autres, tant et si bien qu'il ne s'agit pas seulement de faire beau ou joli, mais de répondre à des fonctions. Est-ce que ce n'est pas souvent perdu de vue lorsqu'on évoque l'architecture ? Est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus tirée simplement vers le domaine de l'apparence parce que c'est le plus facile à percevoir et qu'on a ce souci peut-être aujourd'hui de retrouver une ville plus belle parce qu'on y voit les... parfois peut-être en lui donnant trop d'importance les conséquences sociales que peuvent avoir une ville laide ou mal conçue.
Oui, mais je n'irai pas trop loin dans ce que vous venez d'évoquer parce que au fond, il est légitime qu'il ait des contraintes, puisque c'est de l'argent, et parce qu'il y a des besoins. Mais le rôle de l'architecte, c'est... Alors le terme est un peu prétentieux. C'est peut-être essayer de transcender ces contraintes et ces contraintes d'ordre financier ou technique. C'est d'aller un peu au-delà. Mais alors, aller au-delà jusqu'où ? Alors, à l'inverse, je le disais tout... Alors donc, lorsqu'on fait appel à des architectes pour construire des hôpitaux, c'est parce qu'on attend d'eux que... Ils répondent aux besoins, ils tiennent dans un budget, ils respectent des délais. J'ai envie de dire, ça va de soi. C'est comme si on disait, il faut que l'avion vole. Ben d'accord, il faut qu'il vole et tout. Là, mais on attend de l'architecte qu'il apporte quelque chose d'autre qui est plus difficile à formuler ou qui n'est pas quantifiable dans des tableaux. C'est ça. Alors, le problème, c'est que lorsque, oublions un instant les hôpitaux, c'est que dans certains cas, des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, veulent montrer leur culture, leur sensibilité, etc. Et lorsqu'ils font appel à de très grands architectes, on arrive à des projets de grande qualité, où la synthèse de la fonction, de la construction et de l'architecture, de l'esthétique sont parfaitement assurées. Et puis d'autre part, il y a des dérives qui sont simplement une architecture de m'as-tu vu, quoi. Bon, alors là, c'est un basculement inverse, c'est-à-dire c'est un gaspillage d'argent public. Lorsqu'il c'est de l'argent privé, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est un problème, c'est un problème. Enfin bon, c'est un problème politique.
Pour revenir à l'hôpital et peut-être conclure, mais en ouvrant sur l'avenir, est-ce que vous avez une vision, des sentiments quant à l'évolution de l'évolution de l'hôpital en tant que lieu et édifice dans les années, voire les décennies à venir.
Bon, d'abord une réflexion urbanistique qui est banale, mais qu'il faudrait rappeler, il faut que l'hôpital soit dans la ville. Pour des raisons simples, tout simplement, c'est que le personnel doit pouvoir être logé, si possible, à proximité, et puis surtout que les familles des patients puissent se rendre sans trop de complications, avoir les gens qui sont hospitalisés. C'est pas simple, ça veut dire que c'est un choix politique et financier, c'est-à-dire les terrains dans la ville coûtent cher. Bon. Mais il faut savoir que l'hôpital, on le dit souvent, c'est un des lieux où il y a le plus d'emplois. Pas forcément vrai à Paris, mais c'est vrai dans d'autres villes. Et puis c'est un lieu de structuration d'un quartier. Parce qu'autour de l'hôpital vont s'installer des laboratoires, des bureaux, des logements, etc. C'est un lieu de structuration. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est, je le disais avant que l'émission commence, j'ai conscience de... la nécessité de l'exigence technique et fonctionnelle des hôpitaux, mais en même temps, je comprends très bien la nostalgie que nous éprouvons tous pour l'hôpital pavillonnaire qu'on a évoqué au début. Alors, faire la synthèse des deux, moi j'en suis parfaitement incapable, puis je laisserai ça aux générations qui viennent. Mais il est sûr qu'il faudrait essayer de ne pas perdre le côté positif de nos hôpitaux contemporains, les plus beaux qu'on ait construits, mais en même temps essayer de réintroduire une dimension plus de douceur au travers de l'architecture. Peut-être essayer une plus grande suavité, une plus grande amabilité de l'espace que l'on réalise. Mais c'est difficile, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est dans ce sens que je vais participer à un colloque à Turin la semaine prochaine, non, l'autre semaine, sur les hôpitaux. Et c'est une des choses que j'évoquerai. Mais je n'ai pas de réponse.
C'est une réflexion qui est déjà engagée, donc.
Oui, c'est un amorce.
Merci beaucoup, Aymeric Zublena. Vous voulez ajouter une dernière chose à l'égard de nos auditeurs ou...
Non, merci de m'avoir accueilli. J'espère qu'ils comprendront ce qu'est un hôpital.
Merci à vous. Thank you.